Aujourd'hui, c'est samedi, nous sommes le 24 avril. Le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. La communauté indienne en France très inquiète de la situation en Inde avec un variant qui submerge le pays. 350 000 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures. Nous reviendrons dans ce journal sur l'attaque au couteau hier à Rambouillet. 3 personnes en garde à vue, un assaillant au profil encore flou. Et puis 3 mois après le Brexit, les petits pêcheurs de Boulogne-sur-Mer n'ont toujours pas le feu vert britannique pour pêcher, une lenteur d'attribution des licences volontaire des Britanniques, selon eux.
Les invités de la matinale. Dans 20 minutes, Patricia Martin, vous recevrez...
Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qui publie un livre, Comment ne pas être esclave du système, un livre paru chez Alary Éditions.
Et à 8h20, notre invité, ce sera Thomas Gomard, historien, directeur de l'IFRI. Avec lui, nous parlerons des guerres invisibles. C'est le titre de son dernier livre, paru aux éditions Talendier.
France Inter.
Quand la France se prépare au déconfinement progressif, eh bien d'autres pays comme l'Inde n'arrivent plus à contrôler le virus.
Des centaines de milliers de nouveaux cas chaque jour dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants. Les hôpitaux sont submergés, l'oxygène manque pour les patients placés sous respirateur. Une situation qui inquiète forcément la communauté franco-indienne très importante en Île-de-France. Adhira Mohamed a rencontré des familles qui habitent en Seine-Saint-Denis. Elles redoutent le pire pour leurs proches.
Depuis quelques jours, Amirdine Farouk est accrochée à son téléphone, WhatsApp, Facebook, chaîne d'infos indienne. Il suit la situation en Inde en direct alors que les décès dus au Covid se multiplient dans son entourage.
Et la cousine de mon épouse est décédée il y a 3 ou 4 jours. Le beau-père de mon cousin est décédé hier. Le nombre de personnes qui sont décédées dans l'entourage, c'est plutôt 4-5 personnes en même pas 15 jours.
Et les photos envoyées par ses proches ne le rassurent pas du tout.
Regardez. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Il n'y a plus de place. Les corps sont brûlés à l'extérieur, par centaines, et au bord de la route.
Des images qui font mal aussi pour Bruno, ce Bondinois originaire de Pondichéry.
À cause de ça, on n'arrive pas à vivre ici tranquillement. Donne mal au cœur.
Dans ces conditions, évidemment, les vacances prévues cet été au pays sont annulées.
J'ai réservé les billets. Nous sommes une famille de 6 personnes. 3 000 euros caution, j'ai payé. La compagnie aérienne, elle ne veut pas rembourser. Donc on a perdu 3 000 euros.
Seul espoir pour s'en sortir, selon Amirdine Farouk, que la communauté internationale aide l'Inde en envoyant par exemple des médecins en renfort.
C'est même pas question de solidarité, c'est question de se protéger. C'est éviter que les autres soient contaminés.
Si ce n'est pas déjà trop tard, puisque le variant indien a déjà été détecté dans plusieurs pays d'Europe.
L'Inde s'enfonce dans une crise sanitaire majeure et le Japon décide, lui, un nouvel état d'urgence, notamment à Tokyo, et cela à 3 mois des Jeux Olympiques. Et puis la Nouvelle-Zélande, à peine rouverte, se referme déjà à son voisin australien. La bulle de voyage est suspendue après une résurgence de la pandémie en Australie, donc. Caissières et boeurs routiers, la vaccination en France s'ouvre aujourd'hui à 400 000 professionnels de plus de 55 ans. Des créneaux réservés leur sont disponibles dans les centres de vaccination. Et puis c'est aujourd'hui également que démarre en France la vaccination avec Johnson & Johnson pour les plus de 55 ans. Il s'agit du 4e vaccin disponible sur le territoire. Ouvrons la vaccination à tous, une stratégie vaccinale que réclame dans le Parisien ce matin Christian Estrosi, maire LR de Nice. À 2 semaines d'un début de déconfinement en France, il faut protéger tous ceux qui vont reprendre une activité comme le monde de l'hôtellerie ou de la restauration, dit Christian Estrosi. L'hôtellerie, justement. Le secteur se prépare aux vacances d'été, malgré des perspectives encore floues. Les réservations ont plutôt bien démarré, Philippe Lefebvre.
Les premières indications des sites de vente de voyages en ligne sont plutôt bonnes. L'envie de vacances semble pour les Français plus forte que l'incertitude sanitaire. C'est ce que constate Mélanie Lemarchand, la directrice de Lidl Voyage.
Aujourd'hui, même si nous sommes confinés, les Français arrivent à se projeter et on est vraiment sur des ordres de grandeur de plus de 100% en termes de réservations sur vraiment juillet-août.
Et la chaîne Logihotel, forte de 2000 établissements, affiche des niveaux de réservation record plus 142% par rapport à l'année dernière, avec une clientèle telle qui n'est pas que française, observe Karim Souleyavoup, le directeur de la chaîne.
54% de Français et 46% de clientèle de proximité européenne, internationale néanmoins, avec nos amis belges qui sont devenus en 2021 aujourd'hui notre première clientèle et qui ont dépassé la clientèle anglaise.
Et dans certains pays européens, la tendance est également à la reprise, comme en Grèce, où les contraintes sanitaires ont été allégées, y compris pour les Français. Et Jean-Marc Roucos, le directeur de l'hôtel Anxana à Corfou, parie sur une très bonne saison.
Nous serons contents avec une capacité de 65-70%. On sera contents, mais on s'attend à plus.
Mais les professionnels du tourisme restent encore prudents. Cette tendance demeure fragile et très dépendante des annonces gouvernementales.
Un reportage de Philippe Lefebvre. La ville de Rambouillet sous le choc après l'assassinat d'une fonctionnaire de police.
L'agresseur tunisien a été tué, 3 personnes sont en garde à vue et 2 perquisitions étaient en cours hier soir, notamment chez une personne qui a accueilli l'assaillant à son arrivée en France en 2009. Le parquet national antiterroriste est saisi de l'affaire. Le point sur l'enquête avec Stéphane Père.
Quelques heures après les faits, les enquêteurs investissent les 2 plus récents domiciles de ce Tunisien de 36 ans à la recherche d'indices. Un domicile à Rambouillet où il vivait depuis près de 2 mois et sa précédente adresse dans le Val-de-Marne. Dans le même temps, la sous-direction antiterroriste interpelle plusieurs personnes, au moins 3 suspects, dans l'entourage de l'assaillant. Arrivé en France en 2009, cet homme était en situation irrégulière jusqu'à ce qu'il bénéficie en 2019, puis fin 2020, d'une carte de séjour valable 1 an. Durant son séjour en France, il ne s'était jamais fait remarquer par les services de police et de renseignement. Il n'était pas fiché S ou inscrit au fichier des personnes en voie de radicalisation. Pourtant, au moment de l'attaque, plusieurs témoins affirment que cet homme a crié « Allah Akbar ». C'est un élément désormais important, mais pas le seul, pour orienter l'enquête vers un attentat à caractère islamiste. Les enquêteurs exploitent également le téléphone du terroriste qu'ils ont saisi sur lui après l'attaque.
Réaction du chef de l'État sur Twitter. « La France ne cédera rien », a écrit Emmanuel Macron.
Près de 3 mois après l'accord sur la pêche entre Londres et Bruxelles, certains pêcheurs français ne peuvent toujours pas travailler.
Ceux de Boulogne-sur-Mer, dans le cadre de l'accord post-Brexit, il avait été convenu que Londres donne des licences aux pêcheurs pour accéder aux eaux britanniques. Alors pas de problème pour les gros bateaux qui ont facilement prouvé informatiquement leur activité avant le Brexit. Ceux-là ont eu le droit de retourner lancer leur filet. En revanche, situation beaucoup plus compliquée pour les petits navires du port de Boulogne. Tracasserie en tout genre pour eux. Les Britanniques traînent les pieds pour accorder les licences. L'eurodéputé français Pierre Karleskind, qui préside la commission pêche au Parlement, accuse Londres d'être de mauvaise foi sur le sujet.
Londres essaye un petit peu de jouer avec un certain nombre d'aspects techniques de cet accord. Et effectivement, sur cette question de la délivrance des licences, on les délivre en fonction d'un historique de pêche, sauf que pour les petits navires, l'historique de pêche, on ne l'a pas, ils ne sont pas géolocalisés. Alors, on l'a indirectement dans les journaux de bord, dans les livrets de bord, dans les livres de criée, mais Londres est en train de faire comme si ces documents n'avaient pas de valeur. Et donc, c'est tout l'objet de la négociation qui a lieu en cours et qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont en train de prendre du retard, effectivement, du fait de Londres. Donc aujourd'hui, on continue à maintenir la pression sur Londres, on continue à maintenir aussi côté Parlement la pression sur la Commission européenne qui est en charge des négociations pour pouvoir avancer.
L'eurodéputé Pierre Karleskind qui préside la Commission pêche au Parlement, et si rien ne bouge, les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer pourraient bien bloquer les camions en provenance du Royaume-Uni, ceux qui transportent du poisson britannique. Une tragédie se profile en Indonésie. Toujours aucune trace du sous-marin indonésien porté disparu depuis mercredi. Une vingtaine de bateaux tentent de le localiser, mais à ce stade, la marine estime que le vieux submersible de 40 ans a épuisé ses réserves d'oxygène. Il y a 53 hommes à bord.
Bientôt la quille pour les 15 confinés volontaires de l'Ariège.
C'est la fin ce matin à 10h de cette quarantaine scientifique au cours de laquelle 7 femmes et 8 hommes ont choisi de vivre hors du temps sous terre pendant 40 jours dans la grotte de Lombrive en Ariège, Deep Time. C'était le nom de l'opération. L'idée était de plonger des humains dans un univers inconnu sans repère temporel pour étudier les capacités d'adaptation. Alain Gastal.
Et premier renseignement, ils n'ont pas cru le directeur des opérations quand il est venu hier dans la grotte annoncer la fin de l'expérience après 40 jours. Les 15 confinés volontaires avaient eux compté pour leur part entre 30 et 33 jours et autant de nuits passées sous terre. Signe que sans repère chronométrique, sans montre, sans horloge, les jours semblent rallongés et le cycle veille-sommeil se ralentit sensiblement. Pour le reste, un spécialiste des neurosciences et un psychosociologue ont passé une grande partie de la journée d'hier dans la grotte pour recueillir les premières impressions avant même la sortie. Surprise encore, s'ils sont fatigués, certains semblent déçus de quitter cet univers où il faisait à peine plus de 10 degrés pour près de 100% d'humidité, où il fallait puiser son eau pour la boire et pédaler pour obtenir une pauvre lumière sur une lampe unique dans la salle de vie. Certains ont même, paraît-il, beaucoup mangé et un peu grossi.
Lui aussi, peut-être, il a grossi. C'est Tiger Woods, parce qu'il a, vous savez, il a des béquilles maintenant. Il a la jambe droite dans le plâtre. En tout cas, beaucoup moins. Le champion de golf apparaît pour la première fois sur son compte Instagram depuis son terrible accident de voiture fin février. Alors, il est tout souriant, mais il ne dit pas pour autant s'il pourra remarcher normalement et reprendre sa carrière. Un mot de football, 3-1, victoire de l'OM hier soir en ouverture de la 34e journée de Ligue 1 face à Reims. L'Olympique de Marseille s'empare provisoirement de la 5e place du classement.
Et le journal des sports complet, ce sera dans une petite demi-heure. C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec les meubles Gautier. Dormir, manger, se détendre, ranger. Trouvez le meuble Gautier qui répond à vos envies dans nos magasins et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski, avec des températures que vous qualifiez de confortables cet après-midi.
Bah oui, tout à fait, jugé par vous-même. 21 degrés prévus à Reims et à Paris, ainsi qu'à Mulhouse, 24 à Brest et Bourges, 25 à 27 degrés de Nantes à Biarritz et en Midi-Pyrénées, 20 à 24 autour de la Méditerranée, mais près de la Manche et de la Belgique, le vent de nord-est va bloquer les valeurs entre 15 et 17 degrés. Le ciel ne sera pas toujours tout bleu, mais les nuages de haute altitude peu épais n'empêcheront pas le soleil, sauf en fin d'après-midi dans le sud-ouest où l'ambiance va devenir un peu plus terne. Et puis à noter un haut temps assez fort et un vent de sud turbulent, notamment sur les côtes de l'Aquitaine.
Jean-Michel Golinski, Météo France.